Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Les événements se passent en 2018 dans les rues de Téhéran, de Machad et des grandes villes d'Iran. Des femmes se postent dans un coin en vue et restent là, immobiles, un bâton à la main, comme des statues. Au bout du bâton flottent des morceaux de tissu, hautement symboliques, puisqu'il s'agit de leur foulard, leur hijab, que ces femmes ont osé ôter en public. Comme les femmes qui montraient leurs seins habillés du seul slogan « Mon corps m'appartient », les femmes iraniennes entendent par là protester contre l'obligation depuis près de 40 ans en Iran de se couvrir les cheveux, qui est un des fondements, un des remparts, peut-être le dernier, d'une république qui n'a plus grand-chose d'islamique. Pour ceux qui connaissent un peu l'Iran, ces petites actions isolées, n'ayant l'air de rien, sont d'un courage et d'une audace incroyables. Quelques mois auparavant, elles eussent été littéralement inconcevables, et même pour tout dire, au début, on n'y a pas cru. Depuis, d'ailleurs, tout ça a été recouvert par la crise économique, le Covid et la répression. Mais à l'époque, des hommes ont emboîté le pas également, sont montés sur des petits comptoirs électriques et ont brandi les mêmes morceaux de tissu par solidarité. Ils ont été suivis par quelques femmes portant le traditionnel tchador noir qui, sans quitter le foulard qu'elles ont librement choisi de porter, voulaient dire que les autres devraient également pouvoir choisir de montrer leurs cheveux ou pas. Les images très émouvantes de ces protestations ultra-subversives ont fait le tour du monde en une semaine, jusqu'à ce qu'une trentaine de ces femmes soient finalement arrêtées, mettant un terme à la contestation. Le cheveu étant apparemment un vrai sujet de sécurité intérieure, les hommes iraniens n'ont pas été épargnés par le gouvernement qui a publié, sachez-le, il y a quelques années, un guide des coupes de cheveux masculines acceptables du point de vue islamique. L'usage exagéré du gel et les brosses trop volumineuses se dressant sur la tête, ainsi que les cheveux trop longs bien sûr, étaient proscrits avec force des seins à l'appui. Il ne s'en est pas suivi grand-chose de répressif à ma connaissance, en dehors de quelques fous rires étouffés pour ceux qui ont eu la chance de consulter la brochure. Tout de suite dans les pieds sur terre, on verra que l'Iran n'a pas le monopole du cheveu politique. Ainsi, avant la fin du mandat de Barack Obama, des internautes suppliaient sur Twitter la première dame, Michelle Obama, d'arborer ses cheveux naturels, non lissés, au moins une fois. « Montrer aux jeunes femmes que ce n'est pas un problème », écrivait-il. Mais c'est seulement après son départ, le 3 avril 2017, qu'on a pu voir paraître pour la première fois une photo de Michelle Obama, les cheveux non défrisés. L'image a été partagée plus de 30 000 fois et aimée près de 80 000 fois, témoignant ainsi de la force du mouvement pour les cheveux nappy, naturel and happy aux États-Unis et bientôt en France. Donc, comme on l'entend tout de suite dans Les Pieds sur Terre, ce récit raconté par Martine Abbat et diffusé pour la première fois en février 2018.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Bon. Alors, c'est pas là-dedans, parce que c'est juste les classeurs, c'est forcément dans celui-là ou dans l'autre. Ah, il faut que je vous le trouve, en tout cas. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, il faut que vous lisiez... C'est important que je vous le montre parce que c'est mieux de le lire en fait.
Mais c'est quoi?
C'est un livre, un manuel exactement, de coiffure, de BP Coiffure, édition 2010,
qui liste le cheveu crépus comme étant une anomalie et qui le décrit comme. Alors de mémoire, ça dit le cheveu crépus sur l'ensemble de la tête est une affection congénitale. Ou héréditaire. C'est un manuel français.
C'est quand vous avez passé votre brevet professionnel de coiffure.
Voilà, c'est ça. J'ai été extrêmement choquée, très mal à l'aise, enfin très mal, parce que ça me renvoyait en fait à un sentiment que j'avais ressenti quand j'étais enfant, que mon cheveu était une anomalie. Et du coup, de le voir écrit par des professionnels, eh bien, j'ai eu un mouvement de recul et ça m'a vraiment fait des frissons. pendant un instant, je me suis dit, mince, peut-être que c'est vraiment une erreur, en fait. C'est vraiment une pathologie congénitale, je ne sais pas. Et je me suis quand même posé la question. Et après, je me suis dit, mais enfin, enfin, Aline, tu te rends bien compte que c'est absolument dément, ce qui est écrit là. C'est incorrect, mais c'est hyper discriminant, c'est raciste, et c'est juste une erreur monumentale. Voilà, grave. Je suis Aline Tacite, j'ai 43 ans, je suis coiffeuse, experte et formatrice dans les cheveux crépus, frisés et bouclés. Je tiens un salon de coiffure depuis 8 ans maintenant, en région parisienne. Et j'ai un cheveu crépus naturel, une frisure extrêmement serrée, celle que tout le monde redoute, et particulièrement les coiffeurs. J'ai la frisure la plus serrée. On appelle le type 4C.
C'est-à-dire que les cheveux crépus ont une classification.
Pour identifier le degré de frisure. Et mon degré de frisure, il est au maximum.
Ils sont fins, j'ai l'impression qu'ils sont très fins en plus.
Naturellement, le cheveu dit afro est très fin. C'est le plus fragile en fait, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais j'en ai énormément. Et j'adore mes cheveux. Moi, je suis née et j'ai grandi à Paris. Et je suis très proche de la Guadeloupe parce que mes parents y vivent déjà. Ils nous ont élevés ici, 30 ans. Mais les premiers souvenirs qui me viennent, c'est ma sœur et moi jouant. On devait avoir 4-6 ans par là. On avait un espèce de napperon multicolore, orange, bleu, vert, rose, qu'on mettait sur notre cheveu et qui était assez long, donc du coup, ce napperon. On jouait avec parce que ça nous donnait un peu de lourdeur et de longueur, comme si en fait c'était nos cheveux. Et je me rappelle du sentiment que j'avais quand je le mettais, c'était je pouvais bouger, il y avait quelque chose qui bougeait quand je secouais la tête. Et je me rappelle que je me sentais super belle avec. À l'école, il n'y avait pas beaucoup de noirs dans ma classe. C'était Arcueil, dans le 94. Et donc, dans la petite enfance, ça va, ça passe. Mais après, quand on rentre en maternelle, puis en primaire, là, je me souviens de ce moment où j'ai pris conscience de ma différence. J'ai pris conscience du fait que j'étais noire et différente.
Vers quel âge ?
À 7 ans. Quand, dans la cour d'école, il y a un camarade qui m'a traité de sale noiraude. Vous vous rappelez de la noiraude ? À l'époque, c'était un dessin animé qui représentait une vache noire qui se plaignait à son docteur. « Allô, docteur, j'ai mal, j'ai ceci, j'ai cela. » Je détestais ce dessin animé parce que il y avait tellement peu d'images qui me représentaient à l'écran, d'images positives, qu'en fait, me voir représentée de près ou de loin par une vache, et d'être comparée, en l'occurrence dans la cour d'école, à une vache noire, et ça a été extrêmement violent. Avant cet épisode, finalement, je voyais plus ou moins qu'il y avait des différences, mais je ne les ressentais pas comme quelque chose de négatif. Et ce moment-là a cristallisé en moi une différence qui était négative. Je l'ai intériorisé comme tel, mais de façon très profonde. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vouloir cacher tout ce qui était différent. En tout cas, essayer de me fondre dans la masse. Donc, mon cheveu, déjà. Ma couleur de peau, je suis un peu plus claire, on va dire, que ma sœur. Et du coup, je me disais, bon, ma couleur encore, ça passe. Mais alors mes cheveux, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et donc pendant des années, à partir de là, avec ma sœur, on a tanné ma mère pour obtenir un défrisage, qu'on n'a pas obtenu tout de suite, et jusqu'à ce que ma mère accepte notre premier défrisage. Ma mère nous avait fait ce qu'on appelle un défrisage à chaud. C'est traditionnel, finalement, dans la culture antillaise, que passé la première communion, on utilise le fer chaud. C'est comme un rite de passage, j'ai l'impression, où la chevelure, on la modifie pour cette occasion-là.
Donc il y a l'idée quand même que c'est plus beau.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça, et même si ça n'est pas exprimé comme ça, c'est ce que ça veut dire.
Elle était comment?
Défrisée. Ma mère avait un défrisage à froid, donc un défrisage chimique. Et du coup, elle avait toujours le cheveu raide. Alors, l'étape d'après, ben, fameux défrisage chimique. Alors ça, c'est pour avoir le cheveu raide tout le temps, comme celui de maman. On lui a pris la tête. « Maman, on aimerait bien avoir un défrisage. Regarde, maintenant, on grandit. Ça va faciliter les choses. » On avait un tas d'arguments. Elle entendait tout ça, mais pour elle, elle avait conscience que le défrisage chimique n'était pas anodin.
C'est quoi qui est utilisé comme produit, d'ailleurs?
En fait, c'est de la soude caustique. Hein. Cet actif-là, c'est celui qu'on utilise pour déboucher les toilettes, par exemple. C'est le même. Donc, elle nous interdisait formellement le défrisage chimique. Du coup, on a fait de la résistance jusqu'à 14 ans. Jusqu'à mes 14 ans. Et à 14 ans, on est en Guadeloupe, je me rappelle, grandes vacances, c'était génial. Il y a des Américains qui passent dans le coin et qui proposent un super produit qui ressemble pas à un défrisage lisse parce que ça ne rend pas le cheveu totalement raide. Ça ondule le cheveu, ce qu'on appelait à l'époque le curly. Mais c'est un défrisage, en fait. C'est une permanente. Mais c'est aussi violent qu'un défrisage. Sauf que ça, elle ne le savait pas. Et du coup, elle a accepté. Génial. Donc, je me rappelle encore, quand je suis sortie du coiffeur, je ne marchais plus sur la terre, j'étais sur un nuage. Pour la première fois, je me suis sentie belle. Mais vraiment, je me suis sentie belle, mais j'allais dire femme.
Et donc de ressembler.
Et voilà, de ressembler, en tout cas de me rapprocher de mes camarades blanches aux cheveux longs. Des canons de beauté occidentaux, des canons de beauté véhiculés par les médias, par ce que je vois au quotidien et qui semblait être la norme de la beauté. Et en plus, durant les vacances en Guadeloupe, vous imaginez, tout était parfait en fait. C'était juste parfait. Voilà. Alors, comment dire, tout rêve a une fin, hein. Du coup, la fin du rêve, eh bien, c'était quelques mois plus tard, quand les Américains étaient repartis chez eux, nous, on était revenus en France, et notre cheveu, clairement, il a commencé à casser. Donc là, j'ai dû les couper, court. Là, bon, je me dis, on va laisser repousser, et puis on va refaire un autre défrisage. Je retourne chez la coiffeuse et là, elle me dit « Mais vos cheveux sont tellement crépus, mademoiselle, je vais laisser poser un peu plus longtemps. » Et là, je lui dis mais madame, ça pique, ça commence à piquer, il faut rincer. » Elle me dit « Vous savoir ce que vous voulez du raid ou pas ?» J'ai dit « Oui, mais bon, ça pique. » Elle dit « Non, on va patienter encore un peu. » Et j'ai compris qu'en fait, elle avait laissé quasiment le double du temps nécessaire de la pose. Donc, résultat, quand elle l'a rincé, mon cuir chevelu était totalement brûlé et j'avais quasiment plus de cheveux. Voilà. Et donc, quelques jours plus tard, tous mes cheveux sont tombés et j'ai dû vraiment les raser après. Et donc là, j'ai proche de 16 ans. Et donc, je me retrouve avec ce que je redoute le plus, crépus, court. Très court, la garçonne. Et là, je dois vraiment faire face à cette image pour la première fois. Me regarder en face, dans le miroir, et me dire, pourquoi est-ce que tu cherches à te défriser à tout prix? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et quand je me suis vraiment posé cette question et que j'ai cherché à y répondre honnêtement, la réponse était, que je voulais ressembler à ma meilleure amie du moment, qui est Stéphanie. Ma très chère Stéphanie, qui, elle, avait les cheveux lisses, longs et blonds. Mais je n'étais pas Stéphanie. Tu es Aline et tu es noire et crépue. Et c'est à partir de ce moment-là que le déclic, finalement, s'est produit et que je me suis... même si ça n'a pas été fait de façon fluide, parce que c'est pas évident de se regarder en face, surtout à cet âge-là, et d'assumer quelque chose qu'on déteste. Du coup, ça m'a mis un certain temps, mais je me suis rendu compte, en rasant mes cheveux, en allant à l'école, en sortant à Paris, etc., que les regards sur moi avec cette coiffure n'étaient pas négatifs finalement. J'avais plutôt le contraire. C'est-à-dire, « Ah bah dis donc, ça te va bien, t'as une jolie petite tête ronde, c'est joli. » Ou « Waouh, t'as osé. » Donc c'était plutôt des retours positifs. Finalement, j'ai commencé à y prendre goût, à me regarder différemment aussi. Parce que je me dis, bah, finalement, je suis pas si vilaine. Et ça correspondait aussi à l'époque où j'ai commencé à m'interroger sur mon histoire, l'histoire de mes ancêtres qui sont venus d'Afrique, qui ont été mis en esclavage, qu'on a amené jusqu'aux Antilles. Et en prenant conscience de cette histoire-là, en lisant des bouquins de référence comme Cheikhanta Diop, qui explique qu'avant l'esclavage, il y avait quelque chose et l'Afrique était riche. Il y avait des royaumes, il y avait une culture très importante, une histoire. Et c'était contraire à ce que j'avais pu entendre, non seulement à l'école, mais à travers les médias. Et du coup, l'image, non seulement de mon histoire, mais de l'Afrique et des Antilles, je la voyais se revaloriser. L'image négative que j'avais, plus ou moins malgré moi, de l'Afrique et aussi des Antilles, eh bien, à travers les connaissances que j'acquérais au fil de mes lectures, renforçait mon estime de moi-même. Et c'était très important parce que ça passe par là. Le rapport à mes cheveux passe par l'estime de soi, passe par la revalorisation de ce que je suis intrinsèquement. Donc, passe aussi par la compréhension de mon histoire et la valorisation de cette histoire. Puis j'ai pu voir aussi, à travers les livres, des coiffures magnifiques, des coiffures incroyables, réalisées avec nos cheveux crépus. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est juste splendide. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé entre ce qu'il y avait avant et ce à quoi on a été réduit? Et du coup, je me suis dit, en fait, moi, aujourd'hui, je décide en conscience de porter mes cheveux naturels. Je décide d'être moi, voilà.
Et ça vous a soulagé?
Oh là là, mais incroyablement, je me suis sentie légère. Je me suis sentie moi, je me suis sentie vive, j'ai beaucoup grandi. En une année, j'ai lu je sais pas combien de livres, Frantz Fanon, tout ça là. Et du coup, j'ai mûri. À partir de ma prise de conscience, effectivement, j'ai laissé pousser mes cheveux, j'ai cherché à comprendre comment ils fonctionnaient. J'aimais ce que je sentais sous mes doigts, parce que c'était pas fin, c'était pas filasse, c'était dense. Et cette densité, c'est quelque chose, c'est une richesse, j'allais dire. C'est quelque chose d'incroyable, parce que c'est comme une protection, c'est comme un écrin, c'est comme une espèce de couronne. C'est une couronne, en fait. Cette couronne, j'ai appris à la sublimer, à comprendre sa matière. Donc, cette matière crépue, elle est sensible à l'eau, elle s'assèche facilement, elle est fragile. Donc, j'ai commencé à créer des coiffures parce qu'en fait, quand j'allais chez un coiffeur et que je me présentais avec mon afro, on me regardait avec des yeux d'horreur.
Quand vous dites le coiffeur, c'était quel type de coiffeur?
C'était tous les coiffeurs, noirs et blancs. Le peu de fois où je suis allée, j'ai eu des réflexions du genre nous on coiffe pas ça. Boucle d'ébène studio, bonjour. Oui.
Vas-y, tu peux prendre les épingles s'il te plaît?
Je regarde juste les volumes avant de proposer quelque chose. Comme il est rare de se marier avec un cheveu naturel. Mm-hmm. Au niveau de ta famille, il n'y a pas de souci?
Ils sont quasiment tous cheveux naturels.
Tous cheveux naturels, ok.
Je te mets un petit massage du dos, du siège.
Vas-y, pourquoi pas, t'as qu'à faire.
Oui.
je suis une passionnée de langue étrangère. Donc, je me suis orientée dans un cursus de langue au départ. Et je maîtrisais l'anglais. Quelle chance! Parce que les informations, à l'époque, sur ce cheveu, les premières informations que j'ai pu lire étaient en anglais. Et donc, j'ai cet outil qui me sauve. Parce que les premiers bouquins... Waouh! Parce que c'était tout ce que je recherchais depuis toutes ces années. Comprendre que l'hydratation était importante, qu'il fallait nourrir le cheveu juste après l'avoir hydraté pour permettre une malléabilité, etc., etc. Que le cheveu crépus n'était pas une pathologie. Qu'il avait des spécificités qu'il fallait comprendre pour appréhender. Et que surtout, ça n'était pas appris dans les écoles de coiffure. Et donc là, je me suis auto-formée. Et puis, j'ai commencé à travailler. Je me souviens de la première fois où je suis rentrée dans ce cabinet d'avocats international pour mon entretien d'embauche. Et quelqu'un qui a les cheveux crépus frisés se pose toujours la question de comment il va être perçu, dans un milieu professionnel en tout cas. Parce qu'on a tout à fait conscience du fait que le cheveu crépus induit des images qui sont collectivement pensées comme une coiffure inadaptée, qui n'est pas professionnelle, pas classe, pas élégant, mal coiffé, négligé. Et je savais que ça allait poser question, mais je n'avais pas l'intention de transiger sur ce sujet-là, parce que je ne voulais pas me travestir. Bon, c'était un cabinet international, donc international dit ouverture vers le monde. Donc j'y allais quand même un peu confiante, mais je me disais, un cabinet international en France, on reste quand même en France. L'entretien s'est très bien passé, j'avais un petit chapeau. Je suis restée en entretien avec mon petit chapeau, jusqu'à ce qu'on me demande ce qu'il y avait en dessous. Parce que je savais qu'on allait me demander. Et du coup, la dame m'a demandé ce qu'il y avait en dessous, mon chapeau. Je lui ai dit, ben, j'ai des petites nattes. Vous voulez les voir? Donc j'enlève ma toque. Et elle me dit, ah d'accord, et vous coiffez comme ça souvent? Elle dit, oui, ça m'arrive. Mais je change régulièrement, voilà. Et ça a posé juste une question simple, savoir ce qu'il y avait. Je ne me suis pas sentie jugée, etc. Je savais que j'avais le poste parce que ça s'était bien passé. J'ai négocié mon salaire sans problème. J'ai obtenu tout ce que je voulais. Et voilà.
Ils sont magnifiques, tes cheveux.
Merci.
Ouais. Très agréable au toucher, visuellement c'est très agréable.
Et puis je décide de partir en Angleterre pour aller me former.
Donc vous démissionnez?
Ouais, pour me former à la coiffure du cheveu crépus frisé bouclé et des locks. Parce qu'en France, il n'existe pas de formation pour pouvoir coiffer ce cheveu. La seule fois où on parle du cheveu crépus, c'est pour le défriser.
Et votre fille, elle va forcément avoir un chemin plus facile, elle, parce que vous allez probablement lui transmettre ça. Il y a plein d'étapes qu'elle va passer.
Ah ouais, alors j'en ai une bonne à vous raconter. Ma fille a 4 ans. Ah, ma fille, elle est crépue comme moi. Pareil, très serrée, beaucoup de cheveux. En fait, ma fille m'a dit récemment, « Maman, j'aime toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, sauf le marron. » J'ai fait, « Ah bon ? C'est bizarre, pourquoi donc ?» Elle fait, « Je sais pas, le marron, j'aime pas. » J'ai dit ok. Mais bon, je sais bien pourquoi elle n'aime pas le marron. Et puis quelques semaines après, elle vient et elle me dit « Maman, tu sais, j'aimerais vraiment être blanche. J'aimerais être blanche, avoir le cheveu long et lisse. Et j'aimerais aussi avoir les yeux bleus. » Alors là, j'ai eu un coup au cœur. Quand elle m'a dit ça, vraiment, ça m'a bouleversée. Et j'ai pris une grande respiration et je lui ai demandé « Mais pourquoi, ma chérie ?» Elle me dit « Parce que c'est beau, maman. » J'ai dit, effectivement, les cheveux lisses, longs, la peau blanche, les yeux bleus, c'est très joli, c'est vrai. Je lui ai dit, mais maman a la même peau que toi. Est-ce que ça veut dire que je suis pas jolie? Et là, elle me dit, mais non, maman, t'es jolie. Mais j'aime quand même pas le marron. C'est dur, hein. J'en ai pleuré. J'en ai pleuré. Parce que tout ce qu'on met en place dans son éducation, la valorisation de ce qu'elle est, du fait qu'on la trouve belle, forcément, c'est la plus belle, que son cheveu est magnifique, que je prends beaucoup de temps pour la coiffer. Enfin, non pas que ça prenne du temps, je m'applique à ce que ce moment-là soit un moment de plaisir, pour qu'elle puisse vraiment l'intégrer comme quelque chose de positif et qu'elle le porte en elle comme tel et que plus tard, ça ne soit pas un problème. Donc ça, c'est extrêmement important pour moi. Et elle est baignée dans le boucle d'ébène, dans les afros, dans les trucs, les tresses, etc. Mais la puissance des images et la puissance de ce qu'elle vit à l'extérieur sans moi est tellement important que je n'arrive même pas à contrebalancer. Et quand elle m'a dit ça, j'ai beaucoup réfléchi, j'en ai pas dormi. Ça m'a touchée, ça m'a émue. La première réaction, c'est que je me suis dit, mince, l'histoire se répète, je n'y arriverai jamais. C'est la première réaction que j'ai eue. Et ensuite, je me suis dit, mais non Aline, elle a 4 ans. Et depuis 4 ans, tous les jours, tu lui insuffles quelque chose de positif sur elle. Et du coup, forcément, ça a un impact. Je sais que ce que je suis en train de semer chaque jour, que la graine va grandir, va pousser. Et en tout cas, là, aujourd'hui, je sais que ça migre, je sais que ça fait son chemin, je le sais.
Black is the color of my true love's hair. His face so soft and warm.
C'était Crépus, quatrième épisode d'une petite série intitulée Changer le monde, reportage signé Martine Abbat et réalisé par Clémence Grosse avec un coup de main de Cécile Lafont. Merci à Aline Tacit, Panda Diouf, Imani Griffon et Rokaya Diallo. C'est Camille Richir, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Sarah Jeroui, notre stagiaire.
Black is the color of my true love's hair.